2 Corinthiens 13, le verset 11. Et on va prier avant cela, bien sûr, pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Alors, merci Seigneur d'être avec nous encore une fois ce matin. Tu as été présent tout au long de cette semaine. Tu nous as instruits, tu nous as parlé, tu nous as montré la voie à suivre et nous n'avons aucun doute que tu sauras faire de même ce matin. Nous prions, Seigneur, que ta grâce nous soit accordée, que tu nous accordes, Seigneur, la compréhension face à ta parole et aussi, Seigneur, de saisir tes plans, tes desseins et tes désirs pour notre vie personnelle, mais aussi, Seigneur, pour la vision que tu as pour ton peuple, pour ton Église. Alors ce matin, Seigneur, parle-nous, instruis-nous, éduque-nous et fais en sorte, Seigneur, que nous puissions mettre de l'avant cette parole que nous nous apprêtons à partager et que nous puissions, Seigneur, l'appliquer dans notre vie quotidienne. J'appelle ta bénédiction sur mon frère et ma sœur. J'appelle ta grâce sur leur vie. Merci, Seigneur, parce que nous savons que ce que tu promets, tu l'accomplis. Et de ce que nous savons, Seigneur, que tu es présent parmi nous, même si nous sommes dispersés un peu partout autour de la ville de Montréal, voire même la province, ou voire même à l'étranger. Merci, Seigneur, de répandre une même grâce, une même bénédiction et une même onction sur chacun d'entre nous. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, on reprend dans 2 Corinthiens, au chapitre 13, le verset 11. La Bible nous dit, « Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et Dieu de paix sera avec vous. » Je répète, « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et le Dieu de paix sera avec vous. » Alors que le Seigneur puisse bénir sa parole ce matin, comme il l'a fait tout au long de cette semaine. La partie que nous étudions ce matin, la conclusion du verset, « Et le Dieu d'amour et le Dieu de paix sera avec vous. » Le Dieu d'amour, le Dieu de paix sera avec vous. Cette phrase vient conclure effectivement ce verset. Un verset qui a été important pour nous cette semaine, qui nous a permis de revoir certains critères que Dieu veut voir vivre, expérimenter par son Église, par ses enfants. Paul va instruire l'Église de Corinthe quant à l'unité qui doit être maintenue dans le corps de Christ, tant qu'à l'attitude de joie débordante qui doit accompagner la vie chrétienne, quant à la sainteté qui doit être recherché par les uns et par les autres. Et il va conclure en disant, si vous avez effectivement ces critères, si ces facettes sont effectives dans votre vie, alors le Dieu d'amour et le Dieu de paix sera avec vous. Premier point qu'on doit comprendre pour ce matin, c'est que Dieu étant le Dieu d'amour, il ne peut pas s'associer à la dissension. Dieu étant le Dieu d'amour, il ne peut pas s'associer à la dissension. Il ne peut pas s'associer lorsqu'il y a des esprits de parti parmi nous, lorsqu'il y a des concurrences parmi nous, lorsqu'il y a des disputes et des querelles parmi nous. Dieu ne peut pas s'associer à une telle attitude ou à un tel groupe d'hommes et de femmes qui maintiendraient ces querelles et ces disputes. Donc pour nous, il est important de comprendre que si nous voulons voir Dieu intervenir, agir et bénir l'œuvre de nos mains, il nous faut donc vivre dans la concorde, dans l'unité et dans l'harmonie avec nos frères et nos sœurs. On veut tous que le Seigneur se manifeste davantage dans nos vies respectives et on veut tous que le Seigneur se manifeste davantage dans nos congrégations locales respectives, voire dans l'ensemble de son corps. Mais Dieu ne peut pas le faire s'il ne règne pas parmi nous amour, concorde et unité. Donc le Dieu d'amour, de par ses qualificatifs personnels, de par sa description même, le Dieu d'amour ne pourrait pas s'associer, s'unir avec des gens qui prôneraient la dissension ou la division. Le Dieu de paix, puisqu'on parle du Dieu d'amour et du Dieu de paix, qui est bien entendu le même, notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de paix ne peut pas s'associer avec la division. Comme je répète, ceci est une conclusion de tout ce qu'on a vu cette semaine, et on a vu, notamment hier, qu'il nous fallait vivre dans l'unité du corps de Christ, dans une unité de vision, dans une unité d'effort, dans une unité de travail commun, dans une unité d'objectif qui est l'objectif de Dieu. Donc ce Dieu de paix qui prône que ses enfants, que ses fils et ses filles vivent aussi en paix entre eux, ben Dieu de paix ne peut pas vivre dans un corps qui est éparpillé, dans un corps qui est divisé. Notre Seigneur demande de nous que nous soyons unis et en paix les uns envers les autres. Hier, on a même dit que non seulement il nous fallait être en paix les uns envers les autres, il nous fallait aussi promulguer la paix, il nous fallait aussi enseigner, promouvoir et être des instruments de paix entre les mains du Seigneur. Donc si on veut aussi voir le prince de paix régner sur nos vies, si on veut effectivement voir la présence de Dieu être manifeste de façon intense parmi nous, encore nous faut-il, à nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu et représentants du royaume de Dieu, il nous faut aussi prôner l'unité au sein de notre corps local d'Église, tout comme dans l'ensemble du corps de Christ. Donc je répète ces deux premiers points pour ce matin. Étant Dieu d'amour et étant Dieu de paix, notre Seigneur ne peut s'associer ni avec la dissension, ni avec les disputes, ni avec les divisions qui malheureusement viennent régulièrement s'immiscer dans le corps de Christ et affaiblir notre unité et notre travail commun. Ici, on est en train de dire que si nous avons ces différents critères qu'on a énumérés tout au long de cette semaine, alors notre Dieu va s'associer avec nous. Conséquemment au fait de veiller sur nos vies, veiller à la sainteté, à la sanctification, veiller à l'unité, veiller à une joie qui soit débordante, exubérante et qui glorifie publiquement le nom de Jésus. Donc, si on a ces critères dans notre vie, alors Dieu va s'associer avec nous. En fait, pour dire franchement, Dieu s'associe avec ceux qui représentent ou qui présentent plutôt les mêmes caractéristiques que lui. Le Dieu d'amour veut s'associer avec ceux qui vont présenter des caractéristiques d'amour. Le Dieu de paix veut s'associer avec ceux qui vont être des hommes de paix. La Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs pour Dieu et que nous réconcilions les hommes avec Dieu. Donc nous qui sommes des représentants du royaume de paix, nous qui sommes des représentants du prince de paix, nous qui sommes des représentants du royaume de Dieu, nous devons avoir cette même caractéristique qui est celle de Dieu. C'est toujours dichotomique de voir quelqu'un qui vend un produit et qui lui-même n'utilise pas ce produit. On dit l'expression très commune que il n'y a pas plus mal chaussé qu'un cordonnier, et qui veut dire que le cordonnier qui répare les chaussures de tout le monde, ben lui laisse de côté ses chaussures qui ont besoin d'être rapiécées, dont le talon a besoin d'être changé et réparé. On dirait que le cordonnier, parce qu'il est occupé à réparer les souliers des autres ou à arranger les souliers des autres, ne prend pas garde à ses propres souliers. Dans le royaume de Dieu, une telle attitude ne devrait pas exister. Celui qui est appelé à promouvoir la paix de Dieu devrait effectivement lui-même être en paix avec Dieu et de surcroît à cela, être en paix avec ses frères et ses sœurs et être en paix avec l'ensemble de ses prochains. Donc, si on veut voir Dieu s'associer à nous, il nous faut à nous aussi représenter dignement les mêmes caractéristiques qui habitent Jésus, qui habitait Christ et qui sont partie prenante de notre Seigneur. Donc Dieu s'associe avec ceux qui manifestent les mêmes caractéristiques que lui. Voilà pourquoi Paul va dire aux églises de l'imiter comme lui imite Jésus-Christ. Il va dire, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis imitateur de Christ. Donc Dieu, ou Paul plutôt, ressemble à Jésus et il nous appelle à nous à ressembler aussi à Christ. Alors c'est important pour toi et pour moi cette semaine de réfléchir à savoir, est-ce qu'il y a une grosse distorsion lorsqu'on regarde Jésus, lorsqu'on regarde les caractéristiques qui étaient siennes et lorsqu'on regarde ma vie? Et assurément, personne n'est arrivé à la stature parfaite de Christ. Nous tendons tous à cela. Mais ce que je pourrais dire qu'aujourd'hui, je ressemble un peu plus à Jésus que je ne ressemblais à lui hier. Est-ce que je peux dire que suite à l'enseignement de cette semaine, j'ai fait des progrès pour m'approcher effectivement de la stature parfaite de Christ, où je suis encore en latence, voire même en régression par rapport à des progrès que j'aurais pu faire par le passé? Donc c'est ton devoir et mon devoir de sonder ma vie, de sonder notre vie, de demander à Dieu de nous éclairer et de nous révéler quel est l'état réel de notre vie. Lorsque lui regarde notre cœur, lorsqu'il regarde nos motivations, lorsqu'il regarde nos pensées, lorsqu'il regarde ce que l'homme de l'extérieur ne peut pas voir, est-ce qu'il voit que nos motivations sont justes? Est-ce qu'il voit que nos motivations sont dignes? Est-ce qu'il voit un cœur qui est rempli d'amour ou un cœur qui cherche simplement à faire de l'apparat, à ressembler à quelque chose, mais qui à l'intérieur est rongé par la teigne? Donc, nous devons savoir que Jésus s'associe avec quelqu'un qui lui ressemble. Voilà pourquoi il doit nous façonner, nous modeler, nous changer, travailler notre vie encore aujourd'hui. Que cela fasse quelques mois que tu sois venu au Seigneur, que cela fasse des décennies que tu marches sous son regard, il a encore du travail à faire et on doit être encore aussi malléable entre ses mains qu'au premier jour. La présence de Dieu entoure ceux qui veillent et qui travaillent à la cohésion et à l'unité du corps de Christ. Comme on dit, cette dernière partie du verset 11 est une conclusion. Paul a énuméré les différentes caractéristiques et on dit par la suite, alors en conséquence de cela, voilà le Dieu d'amour et le Dieu de paix sera avec vous. Ça veut dire que si je ne manifeste pas ces caractéristiques, le Dieu de paix ne peut pas être avec nous. Alors, une des façons d'obtenir une présence de Dieu encore plus effective, encore plus manifeste dans notre vie, c'est de voir et de travailler effectivement à la cohésion du corps de Christ. Hier, on a mis une emphase toute particulière pour parler de l'unité. En fait, dans les deux dernières journées, on a parlé de régler nos conflits, on a parlé d'accorder le pardon, on a parlé de faire preuve d'abnégation, savoir à l'occasion se laisser de côté pour prôner ce qui était important et qui était l'œuvre de Dieu, de savoir se mettre de côté au profit de notre prochain, au profit de notre frère, de notre sœur, pour le bien, le bon maintien et la bonne santé du corps de Christ. Donc la présence de Dieu va entourer ceux qui vont travailler à la cohésion et à l'unité du corps de Christ. La Bible nous dit même de nous séparer de ceux qui causent des divisions. On se rend compte lorsqu'on lit les Écritures et le Nouveau Testament que s'il y a une chose particulière qui est détestée par Dieu, une chose particulière qui est réprimée par le Seigneur, c'est ce qui cause des divisions et des scandales dans le corps de Christ. Alors veillons à ne pas causer de divisions et bien plutôt en contrepartie ou au contraire, qu'on puisse plutôt être des agents de cohésion au sein du corps de Christ, d'unité au sein du corps de Christ, si on veut effectivement voir une présence de Dieu encore plus glorieuse et manifeste. La présence de Dieu, lorsqu'on dit qu'il sera parmi nous, le verbe « être » utilisé ici, c'est le terme « eimi » E-I-M-I, pour ceux qui prennent des notes en grec, E-I-M-I, qui veut dire être présent, qui veut dire exister, qui veut dire survenir, devenir, mais qui veut aussi dire assister, appuyer, pousser vers l'avant. Donc la présence de Dieu, non seulement elle vient entourer, vient être manifeste dans nos vies, mais la présence de Dieu vient nous assister lorsque nous travaillons déjà ou lorsque nous travaillons à la cohésion et à l'unité dans le corps de Christ. C'est pas une tâche dans laquelle le Seigneur nous laisse aller là-bas tout seul en disant c'est votre responsabilité, veillez à cela. Non, c'est le genre de tâche que non seulement il nous appelle, il nous exhorte à pratiquer et à faire, mais de surcroît à cela, il vient nous aider, nous assister, nous appuyer et bénir l'œuvre de nos mains lorsque nous travaillons effectivement à l'unité. Donc Dieu ne nous laisse pas seuls à fournir les efforts, il nous équipe, il nous appuie. La présence de Dieu vient assister ceux qui veillent et qui travaillent à la cohésion du corps de Christ. Alors plus je travaille pour le Seigneur à l'unité, plus la présence de Dieu, plus l'Esprit de Dieu me fortifie et me bénit dans cette œuvre-là. Mais de surcroît à cela, lorsqu'on parlait qu'il serait avec nous, le avec nous, le terme méta, avec méta, M-E-T-A, a le sens, oui, d'être présent, de nous entourer, de nous englober, de nous envelopper plutôt. Mais de surcroît à cela, il y avait aussi la pensée de venir après, de succéder à quelqu'un. C'est comme si le Seigneur disait, avancez dans le chemin de l'unité, avancez dans le chemin de la cohésion, et moi, je vais vous succéder. Moi, je vais venir marcher après vous. C'est un peu cette pensée-là qui est manifestée lorsqu'on parlait de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste qui était cette voix dans le désert qui aplanissait le sentier du Seigneur et qui disait au peuple de se préparer à la venue du royaume de Dieu. Jean-Baptiste est venu, après Jean-Baptiste est apparu Jésus. De même, dans un même esprit, dans un même ordre d'idées, lorsque nous travaillons à l'unité, Dieu nous succède ou Dieu nous suit pas à pas. Rappelons-nous un verset important que Jésus va mentionner à ses disciples comme un nouveau commandement. Voici un commandement nouveau que je vous donne, de vous aimer les uns les autres, car à ceci, tous connaîtront que je suis votre Seigneur. À ceci, à l'amour que nous témoignons les uns envers les autres, tous sauront que vous êtes mes enfants, que vous êtes mes disciples. Au travail d'unité et de cohésion auquel nous sommes appelés et auquel nous nous attachons et dans lequel nous travaillons, à cette œuvre d'unité, Dieu succède à cette œuvre et tous peuvent remarquer que nous sommes ses disciples. Il y a des gens qui vont venir au Seigneur par le témoignage de l'amour que nous avons les uns envers les autres et pour l'amour que nous témoignons envers notre prochain. Voilà pourquoi cette notion d'unité, cette notion d'amour est si importante. Lorsque Jésus s'adresse à ses disciples, il n'est pas en train de dire à ces miracles-là, tous sauront que vous êtes mes disciples. Il n'est pas en train de dire au nombre de guérisons que vous accomplirez, tous sauront que vous êtes mes disciples. Il n'est pas en train de dire au nombre de prophéties que vous ferez, tous sauront que vous êtes mes disciples. Non, il dit à l'amour que vous témoignerez les uns envers les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. La marque première de la famille chrétienne, la marque première de la chrétienté est l'amour que nous devons témoigner les uns envers les autres. Et malheureusement, trop souvent, on oublie ça. On devient de grands théologiens, on devient des prophètes, on devient des gens qui opèrent dans le miracle et dans la dimension, on va dire, spectaculaire de l'Esprit de Dieu, mais on oublie que la marque première de notre vie en tant que croyant devrait être l'amour. Et voilà pourquoi il est bon de retourner à cet enseignement et de faire ces révisions cette semaine. Où en est ton amour pour ton frère et ta sœur? Où en est ton amour pour ton prochain? Où en est ton amour pour cette génération-ci? J'ai vu des hommes qui partaient, des femmes qui partaient dans l'œuvre de Dieu avec un bras qui était tordu dans le dos, que Dieu envoyait dans une contrée, dans une ville, dans un voisinage, et ils y allaient comme si c'était une torture, mais ils se soumettaient à la volonté de Dieu. Quand Jésus est mort à la croix, même si la chose était difficile, même si la chose était douloureuse, il l'a fait avec amour. Il a accepté cet outrage qui lui était fait de mourir comme un criminel et comme le plus vil des pécheurs par amour. Et cet amour s'est même manifesté lorsqu'il est déjà en croix, lorsqu'il a déjà ses mains clouées, ses pieds cloués, il fait une prière vers son Père en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Ça veut dire que Jésus, même dans le pire moment de son ministère, qui est en même temps le plus important des instants de son ministère ici-bas sur terre, manifeste encore de l'amour et de l'amour envers ses tortionnaires. Alors moi, quand je fais l'œuvre, quand je fais mon travail, qu'est-ce qui motive mon travail? Est-ce que mon travail est simplement une façon d'être reconnu par les hommes, par mes pairs? Est-ce que mon travail est tout simplement une occasion d'aller chercher une récompense, d'aller chercher un salaire, d'aller chercher une couronne? Ou est-ce que mon travail est motivé par la compassion, par l'amour, par l'affection que je devrais témoigner envers mes frères et mes sœurs? Donc quand on dit que la présence de Dieu va succéder, va suivre notre travail, c'est qu'on est en train de dire, quand je fais marque d'amour, de grâce, de compassion envers mes frères et mes sœurs et envers mon prochain, Dieu n'a d'autre choix que de suivre par la suite. Dieu n'a d'autre choix que d'appuyer, de soutenir cette œuvre d'amour et d'affection et de compassion que nous avons initiée. Mais de surcroît à ça, lorsqu'on parle de venir après, on parle aussi d'apporter la protection. Quand je travaille à l'unité du corps de Christ, quand je travaille à maintenir en bon ordre le corps de Christ, quand je travaille à maintenir les liens de paix qui sont supposés nous unir, et en fait, c'est pas supposé qu'ils nous unissent, mais que je veille à ne pas les fragiliser, ben la protection de Dieu est aussi sur moi. Lorsqu'on dit qu'il viendra après nous, le terme méta toujours, qu'il vient derrière nous, il y a cette pensée de protection. Un peu comme cette image de David qui se présente devant Goliath, et Goliath lui dit, mais qu'est-ce que tu viens à venir devant moi avec des bâtons, des pierres, des cailloux et ta fronde? Et David va dire, mais moi, toi tu viens avec ta lance, avec ton épée, moi je viens au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Donc David est en train de dire, moi tu ne le vois peut-être pas, mais à côté, il y a l'Éternel des armées qui campe avec moi. Donc lorsque je travaille à l'unité du corps de Christ, l'Éternel campe auprès de moi et sa protection veille sur moi. Donc David allait face à Goliath pour la protection d'Israël, pour le maintien du bon ordre d'Israël, pour le maintien de la sécurité d'Israël, et l'Éternel était au rendez-vous avec son serviteur David, un faible berger, un jeune homme, un petit soldat à l'époque, mais que Dieu va utiliser grandement afin que son nom soit élevé, tant le nom de l'Éternel que la réputation même de David qui va devenir le roi le plus grand et le plus glorieux de l'histoire d'Israël. Mais de surcroît à ça, Dieu va aider David. J'ai souvent cette image en tête où je m'imagine un peu lorsque David commence à tourner sa fronde, qu'il s'apprête à lancer son caillou. C'est comme si je me dis la main miraculeuse de Dieu prend le caillou et le dirige parfaitement là où il doit aller, dans le point faible du casque, en plein entre les deux yeux, et il l'enfonce avec son pouce divin. Il l'enfonce encore plus profondément pour s'assurer que Goliath tombe. La main de Dieu était sur David, la main de Dieu appuyait David, la main de Dieu secourait David. Et il en est de même pour nous lorsque nous travaillons à l'unité du corps de Christ. Alors qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a vu tout d'abord que le Dieu d'amour ne peut pas s'associer avec ceux qui travaillent à la dissension ou avec ceux qui favorisent la dissension. On a vu que le Dieu de paix ne peut pas s'associer non plus avec ceux qui font des travaux par esprit de parti, par esprit de partisanerie, ceux qui ne travaillent pas à la paix du corps de Christ. On a vu que Dieu s'associe avec ceux qui manifestent les mêmes critères, les mêmes caractéristiques, les mêmes manifestations que Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, nous devons être aussi un peuple d'amour. Dieu est le prince de paix, nous devons aussi être un royaume de paix et des enfants de Dieu remplis et de qui émane la paix. Enfin, on a vu que la présence de Dieu entoure ceux qui veillent et travaillent à la cohésion du corps de Christ, que la présence de Dieu assiste, appuie fortifie le travail et l'œuvre de ceux qui travaillent à la cohésion, que la réputation de Dieu succède, que la présence de Dieu succède le travail de ceux qui sont attachés à l'unité et attachés à la cohésion du corps de Christ, et que la protection de Dieu repose sur ceux qui veillent toujours au bon maintien de la paix et de l'amour dans le corps de Christ. Alors, pour toi et pour moi ce matin, on a encore quelques heures avant notre temps de prière ce soir, que nous puissions nous interroger dans notre temps de dévotion personnelle, que nous puissions nous interroger où en est cette manifestation de la paix, cette manifestation de l'amour, cette manifestation de l'unité de moi envers le peuple de Dieu. Où je me situe dans le travail à maintenir la paix au sein du corps de Christ? Est-ce que je suis capable de faire preuve d'abnégation? Est-ce que je suis capable de laisser de côté mes intérêts, laisser de côté mes désirs, mes objectifs personnels au profit du corps de Christ? Je vous donnerai une expérience personnelle parce qu'elle m'est revenue ce matin. Le Seigneur me l'a ramené à la mémoire ce matin. Il y a une certaine époque, je n'étais pas encore pasteur à l'époque, j'étais tout jeune, et je faisais un travail dans l'église qui m'avait été donné par quelqu'un qui était un ancien dans le corps de Christ. Il m'avait dit, voilà Florent, je commence tel groupe, et puis quand je peux pas y être, c'est toi qui t'en occupes. Donc le premier mois, je suis monté avec lui pour diriger ce petit groupe de prière. Et après un certain temps, il a arrêté de venir. Donc semaine après semaine, je continuais à aller le vendredi soir, ou je ne sais quel jour, peut-être le mardi plutôt. Je continuais à aller faire cette petite étude biblique. Et les choses allaient bien, les gens se disposaient envers le Seigneur. Le Seigneur travaillait dans la vie des gens. Et chaque semaine, je disais à mon responsable, voici où j'en suis, voici ce qu'on fait, voici ce que j'ai enseigné. Et il me disait, mais continue Florent, continue Florent, continue Florent. Et un jour, je me fais appeler par le pasteur dans son bureau. Et il me dit, Florent, j'ai entendu parler que tu es en train de faire un groupe dans tel endroit. Je comprends pas ce que tu es en train de faire. J'ai demandé à tel ancien ce que tu y faisais. Et c'était l'ancien qui m'avait dit que je pouvais monter lorsque lui n'y allait pas. Et il m'a dit qu'il ne t'a jamais placé. Et j'ai dit au pasteur, il n'y a pas de problème, pasteur. Laissez-moi une dernière semaine. Je vais aller parler à ce groupe et je vais leur dire qu'on arrête les choses pour le moment. Et il n'y a aucun problème pour moi. Et c'est pas vrai que c'était aucun problème pour moi. J'étais frustré, j'avais 17 ans, je sentais que je m'étais fait rouler par quelqu'un qui était plus ancien que moi, qui avait menti dans le fait qu'il ne m'avait pas placé ni demandé de faire quoi que ce soit. Et des proches de l'époque me disaient, ben Florent, c'est pas normal qu'on s'attaque à un jeune de 17 ans. On était là lorsque la personne a dit que quand il ne pouvait pas venir, c'était toi qui devais y aller. Je dis, je comprends tout cela, mais pour l'instant, cette personne est plus importante pour le maintien du corps de Christ que moi. Donc, on va pas faire de scandale, on va tout simplement se soumettre. Et ça fait partie de l'abnégation. Est-ce que dans le corps de Christ, il y a parfois des injustices? Oui. Est-ce que dans le corps de Christ, il y a parfois des abus? Oui. Est-ce que dans le corps de Christ, il y a déjà eu des abus? Oui, malheureusement. Est-ce que Dieu voulait cela? Aucunement. Est-ce que Dieu voulait que des gens soient brimés, abusés, abîmés? Aucunement. Mais la réponse que j'offre à ces injustices, la réponse que j'offre suite au fait d'être victime de ces injustices, ça dépend de moi. Je peux utiliser cette occasion pour faire une division, je peux utiliser cette occasion pour faire valoir mes droits, ou je peux réfléchir en tout calme et en toute sérénité et soupeser les choses. Qu'est-ce qui est plus important actuellement? Si Jésus avait pensé à sa propre personne, il ne serait pas allé à la croix. Si Jésus avait calculé que cette croix allait lui coûter sa vie et qu'il ne voulait pas être brimé dans ses droits, être brimé dans sa justice personnelle, il aurait passé outre, il serait passé outre de la croix. Mais il a accepté l'injustice de la croix pour toi, pour moi, et pour le royaume de Dieu, pour l'Église qui était en train de naître. Donc parfois, oui, dans le corps de Christ, il y a des gens qui font des faux pas. Et ces faux pas nous affectent. Mais la réponse que je vais donner doit toujours être correspondante ou doit toujours correspondre aux deux critères qu'on a vus aujourd'hui, hier et avant-hier. Est-ce que nous manifestons de l'amour? Est-ce que nous travaillons à la paix? Et des fois, travailler à la paix et maintenir les liens d'unité qui nous rassemblent, parfois ça veut dire oui, avaler la vipère qu'on a lancée sur nous. Parfois ça veut dire oui, accepter des coups qui sont injustes, qui sont issus du caractère méchant de l'homme, et on sait que c'est une injustice, et Dieu le sait. Mais la présence de Dieu et la bénédiction de Dieu reposent sur ceux qui travaillent à la paix et à l'unité du corps. Alors parfois, même en tant que victime, tu peux malgré tout être un instrument du Seigneur pour la paix du corps. Aujourd'hui, je travaille dans la congrégation où j'avais le sentiment, hein, d'avoir été abusé et d'avoir été traité injustement. Bien des années plus tard, j'ai parlé avec le pasteur sur cette époque-là et il comprenait effectivement que il s'était lui-même fait rouler et que je m'étais fait abuser. Mais pendant tout ce temps-là, Dieu m'est témoin. J'ai été en paix tant avec le pasteur qui me demandait d'arrêter une œuvre dans laquelle je voyais des fruits grandioses qui était en train d'éclore, et plusieurs de ces fruits-là sont encore actifs, sont même dans le ministère aujourd'hui. Donc je voyais des fruits, Dieu les a bénis parce qu'on a travaillé dans la paix, dans l'unité, dans la soumission. Et Dieu me permet aujourd'hui d'œuvrer et de conduire la congrégation dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc Dieu appuie, Dieu soutient, Dieu met son sceau d'approbation sur ceux qui travaillent à l'unité, même quand le travail à l'unité veut dire qu'il y a une certaine injustice qui est faite envers nous. Alors j'espère que ça aura été une exhortation profitable pour chacun d'entre vous. J'espère que vous en sortirez bénis. Regardez, j'aime le corps de Christ. J'aime le corps de Christ en dépit du facteur humain qui se trouve dans le corps de Christ. J'aime ma congrégation en dépit des facettes qui, à l'occasion, voire même souvent, ne correspondent pas à la parole de Dieu ou au caractère du chrétien. Mais j'aime le corps de Christ. Et parce qu'on aime le corps de Christ, on doit veiller à sa protection, on doit veiller à la paix, on doit veiller à ce que l'amour et la concorde et l'harmonie y règne. Alors c'est ton défi, c'est mon défi pour aujourd'hui et pour le restant de notre vie. Alors prions. Seigneur, Dieu d'amour et Dieu de paix. Seigneur, Dieu d'amour et Dieu de paix. Nous sommes très loin, Seigneur, de te ressembler. Malgré l'œuvre que tu accomplis à chaque jour dans nos vies, œuvre de transformation, œuvre, Seigneur, de façonnage de notre vie, on est encore loin de la stature parfaite de Christ. Alors nous prions, Seigneur, que tu continues à travailler dans nos vies. Nous prenons la décision, effectivement, d'être des agents et des acteurs d'amour et de paix au sein de ton corps et au sein de notre société contemporaine, que nous puissions être marqués et que nous puissions être remarqués aussi par l'amour, par la paix que nous témoignons les uns envers les autres. C'est à cela, Seigneur, que tous sauraient que nous sommes tes disciples. Et dans cette génération-ci, dans cette époque-ci, je prie, Seigneur, que lorsque tu regardes nos vies respectives et lorsque tu regardes l'Église que nous représentons, que tu puisses vraiment approuver et apposer ton sceau d'approbation sur nous, comme étant tes disciples. Des disciples qui cultivent l'amour, des disciples qui cultivent la paix, des disciples qui maintiennent l'harmonie au sein de ton corps. Alors Seigneur, parle à ma sœur ce matin, parle à mon frère ce matin. S'ils ont été victimes d'abus, d'injustice, pardon Seigneur pour ceux qui leur est arrivé. Qu'ils puissent Seigneur recevoir la guérison de toi et accepter la guérison de toi. Et qu'ils puissent Seigneur, malgré la douleur et malgré l'injustice, ne pas chercher à se faire eux-mêmes justice, mais accepter Seigneur d'être malgré tout des agents de paix et d'amour. Alors j'appelle ta bénédiction sur mon frère et sur ma sœur aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, dernière petite chose avant que nous nous quittions ce matin, on vous rappelle les inscriptions pour l'assemblée de dimanche en présentiel ont toujours lieu. Il y a des noms réguliers qui ne sont pas encore rentrés cette semaine. Donc, il reste encore de la place. S'il vous plaît, appelez. Ne tardez pas. Et pour ce faire, donc, vous appelez au secrétariat de l'Église. Pour ceux qui ont un crayon, 514-273-8295, ou vous écrivez au secrétariat par courriel. Donc, secrétariat EAJC, en un seul mot, pas d'accent, à commercial@gmail.com. Vous retrouvez ces instructions ou ces informations sur la page Facebook de l'Église. Il y a une affiche en bleu qui a été mise de l'avant à plusieurs reprises cette semaine pour les inscriptions. Donc, vous allez y trouver le numéro de téléphone et puis l'adresse courriel du secrétariat. Les derniers appels vont se faire cet après-midi. C'est ma mère qui va le faire, donc vous avez encore quelques heures pour vous inscrire. Donc, c'est à peu près tout. On va se revoir donc ce soir pour la prière à 19h. Et puis par la suite, ce sera dimanche matin pour notre assemblée, soit en présentiel ou à distance pour ceux qui ne peuvent être là. Donc, quelques salutations encore ce matin. Bonjour à Chantal et à Léo. Bonjour à Diana. Bonjour à Evelyne. Bonjour à Eric. Bonjour à Jude et à Caridad. Bonjour à Consuelo et à Jean. Bonjour à Diane. Bonjour à Makula. Bonjour à qui d'autre? À Adriana. Bonjour, bonjour, bonjour à Karima Kedoui. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont jointes? Non, c'est tout. Donc, on vous invite, inscrivez-vous pour l'assemblée aux coordonnées qu'on vous a données il y a quelques instants. Soyons là à 19h pour notre temps de prière, d'action de grâce, d'intercession et de requête. À 19h, je vous retrouve. J'aurai probablement ma co-animatrice encore avec moi ce soir. Donc, que Dieu vous bénisse, passez une belle journée et puis soyez des agents de paix, des agents d'amour entre les mains du Seigneur. Bonne journée à tous.